Donc voilà, les présentations sont faites. Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on voulait faire une soirée sur l'anarchie. Avant le Covid, hein, je précise, c'était l'idée qui trottait dans la tête avant le Covid. Voilà, je trouvais intéressant de lier la thématique de l'anarchie au soi, parce que a priori c'est pas forcément des thèmes qu'on relie de façon spontanée. L'anarchie c'est souvent un peu flou, en tout cas, enfin pour moi l'anarchie c'est un peu le bazar, quoi. Je pensais avant la soirée que ça fait penser un peu à la cour d'école. Et du coup, comme certains confrères disent qu'il faut que la récréation est finie, voilà, est-ce que l'anarchie c'est la récréation? Donc voilà, on voulait poser tout ça, puis d'abord donc demander à Christian, donc, qui est sociologue spécialisé dans la santé, peut-être de s'atteler à la tâche. Donc déjà de préciser ce que c'est que l'anarchie, notamment en politique. Est-ce que c'est simplement la récréation ou est-ce qu'il y a d'autres champs? À quels endroits les valeurs de l'anarchisme sont-elles mises en pratique? Comment on peut lier ça, éclairer cette dimension politique avec les enjeux de soins et le soin? Et puis évidemment, en lien avec l'actualité, il y a la question de l'État et du lien à l'État, et il y avait cette question qu'on voulait poser ce soir: peut-on se passer de l'État pour soigner? Donc ben Christian, je te laisse la parole.
D'accord. Ben, c'est bien cette présentation, parce que je me dis que ça colle un peu quand même.
On est bien parti.
Bon, d'abord, excusez-moi pour mon retard, franchement, je suis désolé. Alors, l'anarchie. Oui, alors, effectivement, alors, j'ai préparé, ça va peut-être être un peu long, mais je vais couper des trucs. Mais je vais faire ça en trois parties. La première partie, c'est effectivement définir anarchie, anarchisme.
Question.
Oui, je l'enlève, oui. Parce que vous m'entendez moins.
Oui, c'est pas pour l'enregistrement.
La deuxième partie, ça va être... la deuxième partie, j'ai pris le parti, justement, de me dire, finalement... dans la République française, on a une devise égalité, fraternité, liberté. Et j'essaie de voir dans chacune des catégories ce qu'il en est, je dirais, par rapport aux valeurs de l'anarchie et les problèmes que ça pose. Je vais y venir plus précisément. Puis dans une troisième partie, j'ai effectivement plus ciblé sur la question du soin, en essayant de voir. Je suis allé voir un certain nombre d'auteurs et j'ai choisi de parler de l'expérience de la Confédération nationale du travail espagnole avec les anarcho-syndicalistes, parce qu'ils ont pensé la question du soin beaucoup plus que d'autres. Et en plus de ça, ils l'ont pensé avec des concepts qui vont quand même, je pense, nous intéresser, parce qu'ils font beaucoup écho avec les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la question de la santé et du soin. Alors l'anarchie, c'est vrai que ça a deux sens. Ça a un premier sens qui peut être le désordre. Alors tout dépend de qui en parle, mais pour un certain nombre, j'irais de polémistes, l'anarchie c'est une société de désordre, sans système de pouvoir, sans gouvernement autoritaire, sans exploitation, où il n'y a pas de religion dominante, ou même voire, puisqu'il n'y a ni Dieu ni maître, ou même une sorte de radicalisme anti-religieux. Mais plus précisément, c'est une société comment on pourrait dire, qui pense quand même une forme d'ordre. C'est pas une philosophie qui pense le désordre, c'est-à-dire qui pense le chaos, comme certains disent, il faut qu'il y ait le chaos pour qu'on puisse avoir, par exemple, une situation pré-révolutionnaire, il faut foutre le bordel, quoi. Donc l'anarchie, c'est pas ça. Ça a été ça après dans l'histoire, on y viendra. Mais c'est plutôt un ordre qui est porté, je dirais, par l'énergie des individus. C'est-à-dire que les individus ne délèguent pas leur capacité, leur pouvoir, leurs ressources, leur intelligence, ou s'ils la délèguent, c'est vraiment avec des procédures très très méfiantes sur la manière dont le collectif peut capter leur désir de vivre comme ils ont envie de vivre. Alors historiquement, c'est une notion anarchique qui arrive, c'est pas comme Aristote avec la philosophie, ça arrive au milieu du 19e siècle avec notamment Pierre-Joseph Proudhon, mais il y a eu d'autres auteurs anarchistes. Je les cite parce que il y en a pas mal finalement. Il y a Max Stirner, il y a Louise Michel, puisqu'il faut parler aussi des femmes anarchistes, qui est une femme qui a traversé la commune de 1870 et qui a été ensuite déportée plutôt que réfugiée en Nouvelle-Calédonie, et qui a rencontré sur le bateau de la Nouvelle-Calédonie, alors qu'elle ne l'était pas, une autre femme qui l'a convertie, entre guillemets, en tout cas qui lui a parlé d'anarchie, elle est devenue anarchiste. Donc il y a des théoriciens au début du 19e siècle qui pensent la question de l'anarchie, mais dans un contexte plutôt global où on pense aussi le socialisme, où on pense le communisme, où on pense le collectivisme. Donc l'anarchie est une manière de penser ou de repenser la manière dont, après la grande révolution française, on peut mettre en place une société qui soit effectivement plus libertaire. Et donc elle accompagne d'autres mouvements. Elle n'a pas gagné en tant que théorie politique, puisque c'est plutôt le communisme qui a gagné à la fin du 19e siècle et avec les différentes internationales, donc et le socialisme de façon générale, et le communisme. Mais cette branche, je dirais, du socialisme, on pourrait appeler socialisme libertaire ou communisme libertaire, est resté présent en fait depuis 1840 dans le paysage mondial, puisqu'il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en France, il y en a en Amérique du Sud, etc. Mais comme il n'a pas gagné, il a été à la fin du 19e siècle tenté par une forme d'impuissance qui est celle de la violence. Et notamment de la violence contre l'État. Donc il faut se rappeler que alors rappelons-nous de la bande à Bonneau par exemple, mais il faut aussi se rappeler l'affaire Caserio, c'est-à-dire en fait ça se passe à Lyon, c'est un type qui agresse Sadi Carnot, qui était le président de la République de l'époque, et qui le tue, donc c'est un type qui a tué un président de la République, et donc il l'assassine, et donc avec le procès de Caserio, on fait le procès de l'anarchisme. Et il faut savoir que Caserio est guillotiné à Lyon. Il est guillotiné en 1894 à Lyon. Donc c'est pas si loin d'ici, territorialement, etc. Donc il y a eu effectivement une éradication, je dirais, des groupes que l'État de l'époque appelait, le gouvernement de l'époque appelait terroristes, à la fin du 19e et au début du 20e, avec beaucoup d'attentats, la bombe, etc. Et puis une sorte de... En tout cas en France, une sorte de moment qui n'est pas de déclin, mais je dirais où l'anarchie reste souterraine, ou en tout cas va se repositionner, je dirais, dans des mouvements qui sont plus culturels que politiques. Il y a un renouveau culturel de l'anarchie après la période de 68, après la période aussi, je dirais... de Summer Love en Californie, c'est-à-dire des hippies, dans les années 60-70, on a un certain nombre de figures qui sont plutôt des figures d'artistes qui se revendiquent de l'anarchie. Bon, moi ça a bercé ma jeunesse, c'est Georges Brassens, c'est Léo Ferré, voilà, et qui ont une vision de l'anarchie qui est une vision, on pourrait presque dire 40 ans après, romantique, en tout cas symbolique. Bon, je cite, si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous le connaissez, un petit passage d'une chanson de Léo Ferré qui s'appelle L'Anarchie, et qui dit: ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore, ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme tout rongée par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien et bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux. Vous voyez, donc ça, c'est à la fois cette figure de l'anarchiste qui fait peur, quoi, hein, et pas simplement, et puis qui vient du peuple, qui vient du bas-fond, quoi. Hein, et quand moi je suis allé voir Léo Ferré quand il était encore vivant, et j'ai entendu chanter cette chanson, et toute la jeunesse des années 70 disait bravo, bravo. Quand j'ai réfléchi, c'était complètement con. Et donc, mais en tout cas, c'était génial. Et voilà, donc. Et puis il y a eu une deuxième vague de renouveau qui était de nouveau plus politique, qui a commencé, je dirais, avec le mouvement intermondialisme. Où l'anarchie a rencontré d'autres formes de résistance au capitalisme, on va dire ça comme ça, et notamment il a rencontré le mouvement féministe et le mouvement écologique. Et donc il y a, depuis l'intermondialisme, des tentatives de synthèse qui s'appellent anarcho-féminisme, voilà, où la question écologique aussi est pensée. Ça, c'est l'anarchie. Je fais très très vite. Hein. On peut en discuter après parce que c'est plus compliqué que ça. Mais il ne faut pas confondre l'anarchie, donc qui est une philosophie, et là je l'ai un peu confondu dans l'histoire, avec l'anarchisme. L'anarchisme qui est une conception politique de l'anarchie. C'est-à-dire à partir de l'anarchie, on va mettre en place, si vous voulez, l'anarchisme. Et l'anarchisme, en fait, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est plutôt violent quand même, hein, d'une certaine manière. C'est des radicaux qui pensent que c'est les black blocs, par exemple, hein, dans les manifestations. Vous voyez ce que c'est, les black blocs? Dans les manifestations qui ont commencé, par exemple, à Gênes, hein, mouvement intermondialiste, il y a 10-15 ans. Et c'est un mouvement qui est violent, qui est anti-État, qui s'oppose, je dirais, à tout pouvoir gouvernemental. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui prennent le pouvoir sont suspectés par les anarchistes comme des gens qui ont trahi, je dirais, quelque part, le peuple. Voilà. Donc, et ils s'opposent à l'idée que le pouvoir et la domination sont nécessaires pour réguler une société. Ils ont l'espoir, l'espérance, qu'une société peut se réguler par d'autres dispositifs que la prise de pouvoir, la domination, je dirais, des puissants par rapport aux plus faibles. Donc pour résumer, ils sont anti-hiérarchiques ils essayent de mettre en place des organisations qui sont tout le temps à remettre en question, en cause. Ils sont très processuels, en fait, hein, donc très horizontal et très processuel, c'est-à-dire que la décision est toujours possible de la remettre en question, ce qui est à la fois un avantage, parce que c'est la démocratie directe, qui est un inconvénient, par le fait qu'à un moment donné, il y a une impuissance à décider collectivement ce qu'on doit faire. Alors Bakounine, qui est un autre anarchiste très connu, disait, pour finir cette partie, « Nous sommes convaincus que la liberté sans le socialisme mène au privilège et à l'injustice, et que le socialisme sans la liberté mène à l'esclavage et à la brutalité. » Donc l'idée, en fait, c'est que finalement, ce qui est central, c'est la valeur anti-hiérarchique et c'est la valeur de la liberté, si vous voulez, de l'individu. C'est ça qu'il faut reconnaître, qu'il faut bien avoir en tête, la liberté. Alors justement, ce qui nous amène à un troisième terme, qui est celui de libertaire. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre libertaire et anarchiste ? Au départ, les libertaires sont est un qualificatif, un adjectif plutôt, qui est associé à socialisme. Donc on parle de socialisme libertaire. Alors les anarchistes disaient non, on n'est pas socialiste finalement, parce que socialiste c'était être aussi communiste. En plus, quand il y a eu le stalinisme après, ils sont complètement démarqués des libertaires. Mais au fur et à mesure que l'anarchie a été, je dirais, disqualifiée par le fait qu'ils ont eu des attentats, ils ont revendiqué le mot libertaire, avec une sorte de problème auquel ils ont été confrontés, puisque aux États-Unis est né un mouvement qui s'appelle le mouvement des libertariens. Et les libertariens, en fait, se revendiquent des libertaires. Donc ils ont une doctrine, si vous voulez, qui est celle de la liberté, à tel point, si vous voulez, que Ils sont pour la pornographie, ils sont pour la prostitution, ils sont pour tout ce que les gens ont envie de faire. Ils pensent que l'État n'a pas à réguler quoi que ce soit concernant, si vous voulez, les positions, les postures ou les comportements individuels. Mais en même temps, donc, c'est des gens qui pensent que la régulation, elle se fera simplement par le marché. Donc ce sont des néolibéraux, des néo-néolibéraux en fait, hein, qui pensent que l'État n'a rien à dire et ne doit pas exister, mais avec l'idée qu'à un moment donné, la question, je dirais, de l'égalité, de la fraternité n'est absolument pas pensée. Si on devient riche et puissant chez les libertariens, c'est parce que notre individu a fait ce qu'il fallait dans la vie pour qu'on devienne riche et puissant, et si on reste pauvre, c'est parce que quelque part on l'a mérité, quoi. Donc la question de la justice sociale n'est pas trop pensée. Alors les libertariens, en fait, se sont appelés libertariens parce que aux États-Unis, vous savez, il y a les, on le voit bien avec les élections, il y a les démocrates et les républicains, et les démocrates, on les appelle les libéraux. En Europe, les libéraux, c'est plutôt la droite. Aux États-Unis, les libéraux, c'est plutôt la gauche. C'est ceux qui défendent la liberté, mais dans une conception, je dirais, où ils pensent la liberté en même temps qu'ils pensent la justice sociale. Donc comme les libertariens voulaient se démarquer des libéraux, ils ont inventé ce mot libertarien. Voilà. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Donc pas de service étatique, consommation de drogue, pratique sexuelle tout azimut, entre adultes consentants quand même, pas de réglementation donc. Et puis, il y a... une différence qui existe entre libertaire et libertarien, ou enfin une différence. Oui, il y a une différence, c'est-à-dire que les libertaires sont anticapitalistes. Les libertaires sont anticapitalistes, ils sont anti-libre marché, donc c'est une contradiction qui est interne aux anarchistes ou aux libertaires, c'est qu'ils pensent que tout doit venir de l'individu, mais ils contestent, si vous voulez, un système qui est collectivement validé. Au niveau d'une société. C'est-à-dire qu'ils contestent le libre marché. Pour contester le libre marché, ben, il faut à un moment donné penser collectivement comment on va contester, parce qu'individuellement, on ne peut pas, on est pris dans une société de consommation. Et ça, c'est un des gros problèmes que les libertaires vont rencontrer, à tel point qu'un type comme Georges Brassens, qui est un vrai anarchiste, hein, qui a vécu en place et fleurissement à Paris, dans l'élément le plus total avec sa jeune préférée, disait « Je suis tellement anarchiste que je préfère marcher dans les passages cloutés pour ne pas avoir affaire à un flic. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évitement, quoi. Hein. Alors, il a écrit « Mort aux vaches », voilà. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évitement, je dirais, des dispositifs autoritaires. Dont les flics représentent un des aspects. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est, une fois qu'on a posé la question, qu'on a posé un peu les définitions, je me suis dit, bon, dans notre société, ce qui fonde le commun, pour l'instant, au niveau politique, c'est ce terme de république. Par exemple, aux États-Unis, c'est plutôt la démocratie américaine. On ne parle pas de république américaine. Nous, c'est la république. Et donc, la république, c'est toute une histoire depuis 1789, d'ailleurs, qui a fait 9 millions de morts en 1789, entre 89 et 94. Donc, c'est une histoire violente, mais qu'on a su, à un moment donné, sacraliser de telle manière qu'on en a fait le fondement. Il n'y a qu'à voir tous les débats aujourd'hui autour de la laïcité, de la République, on en a fait le fondement de notre société. Mais c'est un fondement, en fait, qui s'inscrit au départ, je dirais, dans une violence sociale extraordinaire. Il faut l'avoir en tête, hein, la guillotine et compagnie. Je veux dire, ce n'est pas tous les pays qui sont dans notre situation. On est même une exception incroyable.
Et quand tu dis 9 millions de morts, c'était en France
Oui, 9 millions de morts français pendant la Révolution française. C'est effarant.
C'est presque un Français sur 4. Il y avait combien de...
Il y avait 36 millions de personnes, si tu veux, à l'époque.
Et, sur quelle période, là, on est sur
89, 94.
Révolution 1700.
On ne le dit pas, on ne nous l'apprend pas à l'école, ça, mais parce que ce qu'on retient, c'est la manière dont on a pu construire avec la deuxième, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième République un État qui est un État républicain, qui est un État de droit, qui est effectivement une démocratie. On est une république, mais on est aussi un État démocratique. Mais ce qui et c'est pour ça que je le dis, parce que les anarchistes n'ont jamais oublié ça. Ils n'ont jamais oublié que cette république était construite sur de la violence, quoi. Voilà. Et c'est pas de la violence automatiquement de l'État, hein, parce que voilà, Robespierre aussi, il s'est fait guillotiner. Ils sont tous guillotinés les uns après les autres. Donc c'est pas un État autoritaire à la Poutine ou à la Staline qui a fait une forme de génocide de son peuple. C'est compliqué, c'est plus compliqué que ça.
C'est une guerre civile, en gros.
C'est une guerre civile, voilà, c'est ça. Mais les États-Unis aussi, hein, se sont construits sur une guerre civile. Hein. La guerre de sécession, c'est aussi une guerre civile. Hein. Mais ce qui faisait la différence avec la guerre de sécession, c'est que tu avais les esclavagistes, les anti-esclavagistes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette espèce de concept qui s'appelle la République, qui a sur les frontons de la mairie c'est liberté, égalité, fraternité, et j'ai essayé de les décliner en essayant de penser comment en fait ils peuvent s'inscrire dans des préoccupations qui ont à voir avec la question de la santé, hein, puisque on revient petit à petit sur la question de la santé. Donc on revient à la liberté. On commence par la liberté. La liberté, comme vous l'avez vu, c'est vraiment une valeur fondamentale des anarchistes. Et la question, c'est en République, comment se conjugue la question de la liberté dans le système de soins. Et donc c'est d'abord, si vous voulez, la liberté d'entreprendre. C'est la liberté d'initiative. C'est le rejet, voire la haine, si vous voulez, des règles autoritaires. Quand on dit qu'on est complètement... envahi, si vous voulez, par des règles administratives qui ne servent à rien, c'est ce qu'on veut dire, hein. Ça vient d'en haut et ça s'impose à nous. Mais c'est aussi la liberté de choisir qui va nous soigner, c'est la liberté de choisir son médecin. Ça peut être aussi la liberté de soigner, c'est-à-dire qu'en fait le métier de médecin, comme le métier d'infirmier, est un métier qui donne lieu à une formation. Je crois que pendant 2 ans, je ne sais plus exactement, c'est 1790, 93, je crois, ou peut-être 90, 92, il n'y avait plus, l'État ne donnait plus, ne délivrait plus, je dirais, de diplôme de médecin. Tout le monde pouvait soigner. Et ça a été une catastrophe extraordinaire. Enfin, ouais. Et après, ils ont remis en place une formation de médecin avec un diplôme d'État, etc. Donc la relation entre liberté, entre la santé et la liberté, donc, est marquée en fait par quelque chose qui a à voir avec une forme d'ambivalence. Hein, parce que d'un côté, donc, comme je disais, la santé, c'est une recherche de sécurité. Et une recherche de sécurité, on peut penser que ça amène plus de liberté aux personnes. Hein, ça peut se concevoir. Et d'un autre côté, au nom de la santé, on va, au fur et à mesure qu'on invente la santé publique, on va avoir une limitation des comportements qui va être régulée par l'État. Et donc l'anarchie n'aime pas l'État. Les anarchistes n'aiment pas l'État. Donc là, on a effectivement à la fois une ambivalence et une contradiction. Donc on a par ailleurs une multiplication des normes sanitaires, plus ou moins impératives, on a de plus en plus ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir, c'est-à-dire l'État qui va s'occuper du corps et voire de l'esprit, avec la santé mentale, des citoyens. De plus en plus, on va rentrer, par exemple, avant qu'il y ait la protection maternelle infantile, se posait la question de savoir jusqu'où on rentre dans les familles. L'État n'a pas à rentrer dans les familles. Avec la médecine sociale, l'État a pu rentrer dans les familles pour signaler des enfants qui étaient maltraités, etc., et a commencé à dire que c'était pas simplement un problème qui était de régulation familiale, hein, ou voire de quartier, mais que l'État devait effectivement faire des signalements, réguler, placer les enfants, etc., qui étaient maltraités. C'est un exemple que je donne, on pourra en trouver plein d'autres. Piste concernant la liberté et la santé concerne en fait l'émergence de ce qu'on a appelé la promotion de la santé. C'est-à-dire promouvoir la santé, c'était, alors au nom effectivement hein, d'un bien-être, de ce que les anglo-saxons appellent well-being, d'un bien-être si tu voulais, des individus et des populations, c'était effectivement à un moment donné renvoyer la santé dans une problématique qui était une problématique normative, c'est-à-dire qui donne les normes du bien-être. Qui va donner les normes du bien-être à un moment donné, ben c'est l'État qui va dire j'augmente les cigarettes à 10 euros parce que au nom du fait qu'il y a beaucoup de cancers, eh bien les gens qui veulent fumer ils vont payer plus cher parce que et si vous êtes fumeur vous n'êtes pas d'accord mais vous êtes soumis si vous voulez à cette promotion de la santé. Et puis la dernière en date si vous voulez qui date de après Deuxième Guerre mondiale, alors il y a des expériences avant qui sont importantes, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu l'émergence assez importante, surtout dans les pays anglo-saxons, mais qui est arrivée aussi en France, de ce qu'on a appelé la santé publique, qui n'est pas la santé curative, qui n'est pas la médecine, encore moins la médecine sociale, qui est la santé publique, et qui effectivement s'est mis en place. Il faut se rendre compte que pendant la Troisième République, je crois qu'il y avait à peu près la moitié des députés qui étaient des médecins. Et c'était des médecins sociaux qui disaient il faut faire des égouts, il faut faire. C'était des hygiénistes. Hein, il faut mettre en place un certain nombre de techniques dans la ville pour que les virus, on va y venir petit à petit, la question des virus, circule moins, etc. Donc la santé publique, en fait, est au nom du bien-être des populations, finalement, se construit sous le signe de l'interdiction. On va avoir avec la santé publique l'émergence des premiers règlements sanitaires. On va avoir, pour être tout à fait honnête, ça a commencé avant, hein, à Florence au XIIIe-XIVe siècle, on a déjà des règlements sanitaires hein, pour que la ville ne soit moins polluante. Mais en fait, l'émergence, si vous voulez, massive de la santé publique, c'est le XIXe siècle. Alors ça se fait au nom, si vous voulez, du bien-être de la population générale, ça se fait aussi au nom de la protection des plus pauvres, des plus démunis, ce qu'on appellerait aujourd'hui les plus vulnérables, notamment par la lutte contre l'insalubrité, c'est-à-dire qu'on a commencé à ce moment-là, avec la santé publique, à se dire il ne faut pas s'intéresser qu'aux maladies, il faut s'intéresser à la manière aussi dont les logements sont insalubres. Hein, dans le terme insalubre, il y a une origine qui est santé. Hein, la salubrité publique, c'est la santé. Hein, et donc, on a commencé à élargir, si vous voulez, la question de la santé, au travail, par exemple, au logement, et l'organisation, si vous voulez, de la santé publique, s'est fait à la fois par une politique étatique, mais qui est restée très très faible en France. C'est plutôt les villes hein, qui ont été les promoteurs de la santé publique dans un premier temps au XIXe siècle. Et puis les villes se sont appuyées sur les acteurs de la société civique, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les sociétés de secours, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui Médecins du Monde, ATD Care Monde, Secours Catholique, enfin voilà, c'était les premières sociétés de secours. Et donc, dernier point sur la santé publique, il y a toujours eu dans la santé publique une préoccupation qui n'était pas qu'une préoccupation, je dirais, de bien-être ou de s'occuper des plus pauvres, mais une préoccupation qu'on pourrait dire, si on était gentil, populationnelle, si on n'était pas gentil, on dirait malthusienne. Néonataliste, hein, c'est-à-dire que c'est aussi l'émergence de l'État-nation du XIXe siècle, et il faut avoir un peuple sain, ne serait-ce que pour avoir un peuple qui, lorsqu'on est en guerre, puisse effectivement être suffisamment en santé pour aller se battre contre les ennemis, mais pas que, c'est-à-dire qu'un peuple qui passe de 39 millions, comme je disais tout à l'heure, la Révolution française, à 66 millions aujourd'hui, c'est un peuple qui est fort, je dirais, sur la scène internationale. Hein. Donc il y avait une politique néonataliste qui était liée avec la question de la santé publique, ce qui peut expliquer dans l'histoire longue que, au-delà de d'autres explications, par exemple, que le droit à l'avortement est mis tant de temps à un moment donné à être acquis en France, hein, parce que c'est quelque chose qui rompt avec cette politique néonataliste qui caractérise la santé publique issue du 19e siècle. Et puis, dernier point, c'est effectivement la lutte contre les épidémies. Et la lutte contre les épidémies se met en place, si vous voulez, organisée par l'État, toujours, hein, dans une perspective qui n'est pas libertaire, loin de là, et qui, au fin du 19e siècle, on voit apparaître, si vous voulez, les premières législations sanitaires, les déclarations obligatoires des maladies. C'est une loi de 1892. Et puis une grande loi de santé publique de 1902, hein, qui est effectivement basée sur le fait qu'à un moment donné, il faut repérer, il faut déclarer, il faut traiter, si vous voulez, les gens qui sont contaminés par une épidémie, quelle qu'elle soit. Cette réglementation sanitaire, si vous voulez, concernant l'épidémie, en fait, s'est développée, s'est complexifiée au fur et à mesure que le 20e siècle s'est développé. Alors notamment, si vous voulez, sur la notion de traçabilité, qui est vraiment quelque chose qu'on entend aujourd'hui, hein, il faut que tout soit traçable, sur le fait que cette traçabilité a multiplié un certain nombre, si vous voulez, de contraintes concernant les professionnels de santé. C'est-à-dire que les professionnels de santé sont de plus en plus, si vous voulez, au courant du siècle, sommés de remplir des fiches administratives pour rendre compte, si vous voulez, des situations qui peuvent être des situations à risque au niveau sanitaire, et parfois au détriment de la clinique, ou pas, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas médecin, mais peut-être qu'on ira dans le débat. Et puis, peut-être par rapport justement à la médecine, parce que la santé publique n'est pas la médecine, hein, vous avez bien compris. Hein. Par rapport à la médecine, qui est cette espèce de colloque singulier, la clinique, le fait de suivre un malade, si vous voulez, dans le temps de sa maladie, etc. Un principe essentiel, si vous voulez, depuis Hippocrate, c'est le secret médical. Et la santé publique a peu à peu fait des accros, si vous voulez, à la robe de mariée de la médecine, on va dire ça comme ça, en demandant pour un certain nombre de situations que cette garantie, si vous voulez, de l'intimité soit effectivement plus nécessaire. Et il y a effectivement une atteinte à la liberté des personnes, c'est-à-dire que ça fait partie du débat aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on se demande aujourd'hui, quand on est dans un système de tel que le nôtre de sécurité sociale, enfin, pas moi, je ne me le demande pas particulièrement, je pense que les acteurs qui sont des acteurs qui travaillent sur les questions de santé se demandent jusqu'où ce qu'ils disent quand ils vont voir un médecin ne se retrouve pas, si vous voulez, dans les statistiques de la sécurité sociale, dans les statistiques, voire du ministère de l'Intérieur, ou... voilà, par des biais qui sont effectivement des biais justifiés par les exigences de la santé publique. Et posons-nous la question, tous les soirs, on a un compte-rendu, si vous voulez, d'Olivier Véran, comment il s'appelle,
Olivier Véran, ouais.
Sur des statistiques qui sont absolument extraordinairement fines. La question qui se pose, c'est comment on les construit aujourd'hui. Enfin, c'est pas simplement qu'on nous les présente en nous disant c'est de la transparence, mais qui les construit et comment elles sont construites, qui les contrôle. Ouais, c'est très très actuel. Hein. Alors la loi de santé publique 1902 dit une chose qui est, je sais ça depuis que je suis à CNCDH, avant je ne le savais pas, c'est que toutes les lois qui sont des lois de contrôle finissent par dire dans un article, ces mesures doivent être proportionnées au risque encouru. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Là encore une fois, qui contrôle le risque, qui le discute, et qu'est-ce que c'est qu'une mesure proportionnée ? Je le dis parce que c'est vraiment un terme juridique qu'on retrouve aujourd'hui de façon assez régulière.
C'était souligné dans les médias sur l'histoire du port du masque, où les mesures actuelles devaient être proportionnées au risque encouru. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des citoyens qui sont à Lyon, notamment, il y a eu des citoyens qui ont dit que le port du masque est justifié. Et la réponse était c'est proportionnel au risque encouru. Mais
comment est mesurée la mesure?
Alors, pour... C'est bon, non ?
Oui,
c'est exactement ça. Ouais. attends, j'ai raté une page, là, je ne sais plus où j'en suis. J'étais où là ? Oui, l'ambition nataliste. Oui, alors, si on va sur l'actualité, justement, faut se rappeler que, donc, on a une loi qui s'appelle l'état d'urgence sanitaire, aujourd'hui, qui a été mis en place, si vous voulez, lors du SRAS, dont la justification était de permettre justement de dépister les personnes qui avaient le SRAS. Je crois que c'était en 2004, je ne suis pas tout à fait sûr, mais le SRAS, ça doit être 2004, non, il me semble, je crois. Ouais, enfin voilà, c'est à peu près au début du 21e siècle. Cette loi donc a été réactualisée pour la question du Covid. Et on a eu une première loi, si vous voulez, d'état d'urgence le 23 mars 2020. Elle a été prolongée une fois jusqu'au 10 juillet inclus. Le 9 juillet, donc, il y a eu effectivement une autre loi qui a organisé la sortie de l'état d'urgence, donc après le déconfinement, hein, et qui a mis en place un régime transitoire, mais qui s'appelle encore état d'urgence sanitaire, qui autorisait le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles jusqu'au 31 octobre 2020, pour faire face à l'épidémie de santé. À l'épidémie de Covid, pardon. Le 1er octobre 2020, l'Assemblée nationale a adopté, avec quelques modifications quand même, la prolongation de cette loi jusqu'en avril 2021. Donc la première fois, on l'a voté pour un mois, la deuxième fois, on l'a voté pour 3 mois, et là, on la vote pour 8 mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien. Hein. Je donne un exemple sur la manière dont se posent les obligations de santé publique et qui s'imposent même, si vous voulez, je dirais, aux politiques, parce que si les politiques ne faisaient rien, on leur reprochait de ne rien faire. Enfin, c'est compliqué. Et alors, la déclaration d'état d'urgence, c'est quoi ? Elle autorise en fait le Premier ministre à prendre par décret, donc sans discussion au Parlement, hein, c'est ça, des mesures limitant la liberté d'aller et de venir. Donc, on revient à la question de la liberté, c'est pour ça que je cite, hein, d'entreprendre des réunions, c'est la liberté de se réunir. Alors, suivant les moments, c'est plus de 10 personnes, moins de 10 personnes, plus de 150 personnes dans les fêtes. Là, on est sur les étudiants, on voit bien que tout ça, c'est en train, effectivement, d'évoluer à chaque fois. Et y compris, si vous voulez, des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile, ça s'appelle le confinement. Et elle autorise aussi des mesures de réquisition de tout bien et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire. Là, j'étais au téléphone avant de venir avec une collègue sociologue qui m'expliquait qu'en fait, elle travaille à la faculté de médecine de Rennes et qu'à la faculté de médecine de Rennes, il y a eu une fête d'étudiants à la faculté de médecine où il y a eu, je ne sais plus, plusieurs dizaines d'étudiants qui ont été contaminés, qui étaient positifs. Mais que le préfet leur explique que s'il y a des renforts sanitaires à un moment donné à avoir, ils mobiliseront aussi ces personnes-là. Donc, vous voyez, jusqu'où ça peut aller, quoi. C'est quand même... bon, je dis ça sous réserve de vérification, mais c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Et des mesures temporaires de contrôle des prix, c'est-à-dire ça veut dire... le masque ne doit pas coûter plus de temps, enfin ce qu'on a vu, effectivement, ça c'est plutôt bien. Et ces mesures doivent être proportionnées au risque encouru. Dernier point, le ministre en charge de la santé, et pas le Premier ministre, a le pouvoir de prescrire par arrêté, motivé, toutes les autres mesures qui s'inscrivent dans le cadre défini par le Premier ministre. C'est-à-dire qu'en fait, au nom, si vous voulez, d'une prérogative, qui s'appelle la prérogative de santé publique, un certain nombre de décrets qui ont pu être mis en place, par exemple dans le milieu culturel, hein, pour sauver la culture, peuvent être abrogés au nom de la santé publique. Pourquoi pas ? Mais c'est pas étonnant, et je vois ça pour le débat, que certains s'enflamment dans les réseaux sociaux en parlant aujourd'hui de dictature sanitaire. C'est pas étonnant. Il y a un fond, quoi. Il y a quelque chose qui se passe dans notre société aujourd'hui qui a réellement à voir avec la question de la liberté, quoi. Mmh. Et moi, personnellement, je peux donner mon avis tout de suite. Je ne pense pas qu'on soit en dictature sanitaire. Mais à Trump, pour en discuter. Deuxième.
J'ai juste une question.
Oui, oui, je vous en prie.
L'urgence sanitaire, le Premier ministre, il peut prendre des décisions sans.
Le ministre de la Santé.
Non, avant, tu n'avais pas parlé du Premier ministre.
C'est le Premier ministre, si vous voulez, qui met en place l'état d'urgence sanitaire.
Ouais.
Donc c'est le Premier ministre, il y a une hiérarchie.
D'accord. Et, après,
et ensuite, le ministère de la Santé peut effectivement. Ou non, si vous voulez, alors ça doit être motivé, il y a des contre-pouvoirs, on est encore en démocratie, mais si vous voulez, ce que j'essaye de rendre compte, le plus rapidement possible, parce que bon, je ne vais pas y passer toute la soirée, mais c'est que l'impératif de santé publique devient l'impératif premier lorsqu'on est dans une situation, je dirais, d'urgence sanitaire. C'est l'impératif qui est prioritaire par rapport à tous les autres impératifs. Impératif économique, on ne ferme pas les bistrots à Marseille. Tous les acteurs ont râlé pour qu'on ferme les bistrots à Marseille pour des raisons qui sont des raisons économiques, des raisons de convivialité, des raisons de lien social. Je ne sais pas si vous avez écouté Véran hier soir à la télé, il explique que lui, les Marseillais reprochent au gouvernement de ne pas avoir suffisamment discuté, demandé l'avis de la mairie de Marseille, de la région, etc. Lui dit si, moi j'y ai été trois fois, je me suis déplacé, j'ai fait des réunions avec le préfet, avec tous les acteurs du territoire. Mais il n'était pas d'accord. Et en dernier recours, je suis ministre de la Santé, j'ai décidé, ils ont le droit de ne pas être d'accord, c'est la démocratie, ils me l'ont dit, mais j'ai décidé de mettre en place ce qu'il a mis en place, c'est-à-dire la fermeture des bistrots. Bon, après, il y a eu d'autres, puisqu'il les a rouverts 15 jours après, mais enfin, bon, je ne vais pas parler politique là, mais c'est pour dire que cet impératif s'impose, quoi, il s'impose même aux villes, voilà. Deux, ça va ? Je ne vais pas trop vite ? Deuxième point, c'est la fraternité. Alors la fraternité, c'est un mot intéressant, parce que Jean, c'est pas mon frère, mais on est en fraternité républicaine. Enfin, j'espère.
Jusqu'à maintenant, oui, mais on verra pas la soirée.
On verra. Donc... on est en fraternité républicaine si on accepte la République, si tu le sais. Mais comme on est quand même sur la République de l'ethno-café.
Ça a du sens.
Ouais. Non, en fait, l'idée de fraternité, c'est. Il y a un côté par rapport à solidarité, il y a un côté quand même qui est très affectif. La fraternité, c'est la famille. Et donc, c'est quand même la notion que. On est frères en humanité, quoi. C'est la fraternité humaine. C'est pas la citoyenneté, c'est pas la solidarité. Et je dis ça parce que au fur et à mesure que l'État-providence s'est mis en place, qu'on appelle l'État social, c'est-à-dire la sécurité sociale, il y a eu effectivement un développement d'une sécurité sociale où la solidarité a pris le pas sur la fraternité. C'est-à-dire que la fraternité implique qu'on a effectivement des liens avec les autres qui sont des liens... on a des liens avec des gens connus, on n'a pas des liens avec des gens inconnus. On a des liens avec des gens qui ne sont pas anonymes, qui sont des liens personnels. On peut prendre la question, si vous voulez, de la manière dont pendant les moissons, les paysans s'aidaient entre eux. C'était des liens qui étaient interpersonnels.
Pas des liens de domination non plus.
Alors il pouvait y avoir des dominations parce qu'il y en a un qui avait 500 hectares et l'autre qui en avait 10, mais en tout cas, je dirais, dans cette fraternité-là, humaine, il n'y avait pas de domination par l'État. Alors que celui qui organise la solidarité, c'est l'État. J'essaie de continuer mon histoire avec l'anarchie. Comme les libertaires sont anti-étatiques, quelque part, ils sont contre la solidarité organisée par l'État. Ce qu'ils voudraient, c'est une solidarité qui soit plus fraternelle et qui soit organisée de façon plus horizontale et de façon plus locale. Mais c'est pas ce qui se passe. Et donc, d'une certaine manière, l'anthropologue ou le sociologue, un type québécois qui s'appelle Godbout, qui avait écrit L'énigme du don, où il expliquait en fait que dans la société moderne, la fraternité s'organise de façon, je dirais, solidaire, par une redistribution étatique, et que c'est une forme pour lui, je vous le verse comme ça, mais achevée, que prendrait la question du don aujourd'hui. Hein, parce que c'est l'histoire du don contre don, hein, si on prend les sociétés agricoles. Et donc, quelque part, on fait, en cotisant, si vous voulez, la sécurité sociale, on fait un don anonyme, on fait un don aux inconnus. Et toute la question qui se pose, c'est quand on fait un don aux inconnus et qu'on vous redemande de faire des dons, vous ne croyez pas qu'avec mes impôts, j'en ai déjà donné assez, quoi. Donc, vous voyez bien que la question, si vous voulez, de la solidarité repose la question du don personnel. Du don, si vous voulez, si je fais un don à Médecins Sans Frontières, je paye pas mes impôts. D'abord, c'est pas obligatoire, je suis pas obligé de le faire, et je vais peut-être pouvoir demander des comptes pour savoir comment c'est utilisé. D'ailleurs, si ce don devient lui-même aussi anonyme, on va avoir une critique qui consiste à dire les grosses associations, si vous voulez, caritatives, on n'a plus du tout de visibilité sur la manière dont ils utilisent leur argent et on va leur demander des comptes en disant sur le camembert d'utilisation, combien vous avez de pourcentage pour faire fonctionner la structure par rapport au fait que vous envoyez réellement l'argent à ceux dont vous dites que c'est pour eux, si vous voulez, qu'on fait des demandes de dons. Alors, par rapport à ça, donc on est sur une question fraternité humaine, solidarité anonyme, et Godbout, si on le suit, solidarité anonyme, qui pose d'autres types de questions sur la manière dont, à un moment donné, on peut s'entraider. On peut s'entraider. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant chez les anarchistes, et là c'est Kropotkin, c'est que eux, ils pensent que la question, je dirais, de la fraternité ne doit pas s'organiser de la manière dont je suis en train de le dire et dont elle s'est organisée dans l'État-providence. Elle doit pas s'organiser selon une formule qui serait celle du don charitable, c'est-à-dire ils veulent sortir de la charité. Hein. Elle doit s'organiser selon quelque chose qu'ils appellent l'entraide. L'entraide. L'entraide et le mutualisme. Et donc c'est comme ça aussi qu'ont été créées les premières mutuelles. Hein. C'est comme ça qu'on a créé les premières coopératives. L'anarcho-syndicalisme est ici très présent. Hein. La CNT, la première CFDT des années 60-70, c'était un syndicalisme qui disait autogestionnaire. C'est-à-dire, on va effectivement, à un moment donné, se réapproprier, si vous voulez, les moyens de production, mais je dirais boîte par boîte. Hein, ouais. Et donc donc ce que je disais, c'est Kropotkin qui a pensé, au moment où le socialisme, le communisme pensait, je dirais, la collectivisation par l'État, si vous voulez, de l'aide, de la question du don, mais alors encore de façon beaucoup plus autoritaire que l'État-providence, hein, a théorisé le fait que dans... alors on était aussi à l'époque du darwinisme, si vous voulez, donc il y avait un darwinisme social qui disait... c'est quoi l'évolution des sociétés, etc. Et lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'entraide, un facteur de l'évolution, où il théorise le fait que, pour les anarchistes, ce qui est important avant la question de l'égalité, avant la question de la redistribution, avant la question de la justice sociale, c'est la capacité que les gens ont de s'entraider. Et il essaye d'enraciner, si vous voulez, son discours sur le fait que l'entraide est un facteur de l'évolution. C'est une forme de darwinisme social, c'est ce qui fait que les générations peuvent survivre, hein, d'une génération à l'autre. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les dons charitables, c'est l'entraide qui a fait que dans le long terme de plusieurs centaines de siècles, l'humain a pu effectivement continuer à être sur Terre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Peut-être, Christian, je peux juste...
Oui, je t'en prie.
Ça m'évoque une anecdote. J'avais fait une présentation à Médecins du Monde il y a une dizaine d'années sur la dimension de la fraternité dans les actions de santé, notamment au bus de Médecins du Monde. Et en préparant l'intervention, j'avais cherché la définition du mot fraternité. Et j'avais pris un vieux dictionnaire que j'avais chez moi qui datait de 1970. Et la définition, c'était un lien de solidarité et d'amitié entre les gens. C'est pour ça que je pense à ce que tu dis. Et après, je suis allé regarder sur la définition actuelle, et il n'y avait plus de terme amitié. C'est juste lien de solidarité. Ouais, ouais. C'est-à-dire que la définition avait enlevé le terme amitié.
Ouais, c'est ça.
Et j'ai l'impression que c'est ce que tu
racontes. Oui, c'est exactement. C'est un condensé avec ton anecdote de ce que je viens ici de dire. Mais... Mm. Alors, solidarité. Alors, en même temps, moi, je me rappelle, hein, j'avais... je raconterai ça plus tard. Et troisième terme, c'est égalité. Alors, l'égalité en santé, c'est quand même un gros problème. Donc, comment on peut mettre en place une justice sociale, si vous voulez, quand même, qui reste au cœur du débat entre égalité, équité, hein, c'est avoir, si vous voulez, selon ses besoins, qui n'est pas exactement le fait de donner également, si vous voulez, sa part du gâteau à tout le monde, en santé. Comment, en fait, assurer à tous et à toutes un état de santé optimal ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut développer un accès aux soins ? Est-ce qu'il faut mettre en place, si vous voulez, des couvertures universelles en santé ? Est-ce qu'il faut mettre en place une meilleure répartition des ressources, si vous voulez, en amont des problématiques de santé pour que les gens puissent se soigner ? Toujours est-il que ces questions ont abouti, si vous voulez, dans la discussion alors, entre universitaires, entre chercheurs, entre praticiens, entre médecins, à l'émergence de nouveaux concepts. Alors le premier, c'est les inégalités sociales de santé, et le deuxième, c'est les déterminants sociaux de santé. Donc, qui ont d'ailleurs été repris, si vous voulez, par les hauts conseils de santé publique quand ils se sont mis en place, etc. Et même dans la stratégie nationale de santé. Alors, la question qui est posée, si vous voulez, avec l'égalité, c'est que les déterminants sociaux de santé, les inégalités sociales de santé, vont montrer au fur et à mesure que ce qui fait que, d'une façon collective, on a un pays qui est en meilleure santé, à tel ou tel âge, ben, on peut prendre un certain nombre d'indicateurs, qui est celui de la mortalité, du fait qu'il y a de moins de cancers, qu'il y a, bon, etc. On peut en prendre toute une flopée. C'est le fait qu'il y ait une intersection entre les différentes politiques publiques. C'est ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que si on a moins de logements insalubres, si on a plus de gens qui sont au chômage, ou moins de gens qui sont au chômage, si on a effectivement à un moment donné des enfants qui peuvent avoir une scolarité, si vous voulez, correcte, etc., et si on a en plus un système de soins, là pour le coup médical opérant, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier, on va avoir des meilleurs résultats en termes, si vous voulez, d'indicateurs de santé et de bien-être pour les populations. La question qui est posée, si vous voulez, avec ça, c'est que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Simplement, pour mettre en place un tel système, ça veut dire changer complètement, je dirais, de braquet au niveau sociétal. Hein. Ça veut dire pas faire la révolution automatiquement, mais ça veut dire répartir les richesses de façon différente. Et donc, il y a une sorte de hiatus entre un discours qui est tenu sur le fait de la transversalité, ce qu'on entend par exemple dans la politique de la ville, tu vois, la politique des quartiers, il faut que tout le monde se mette en réseau, etc. C'est la déclinaison de ça. Et puis le fait que quand même, il y a des agences régionales de santé qui sont exclusivement positionnées et qui sont relativement quand même aveugles, ou même s'ils ne sont pas aveugles, impuissants pour faire changer un certain nombre de problématiques, par exemple celles du logement, qui sont quand même tout à fait importantes, tu vois, pour que les gens restent en bonne santé. On a un problème très important qui est celui donc de l'action intersectorielle et de la transversalité à différentes échelles du gouvernement. Et donc, ce que vont dire les libertaires, c'est que c'est l'État qui organise le cloisonnement, et c'est l'État qui a un discours, si vous voulez, de décloisonnement. Hein, donc ils vont pointer, si vous voulez, cette espèce de contradiction qui consiste à dire « mais l'État, finalement, est responsable, si vous voulez, du cloisonnement, et il continue, si vous voulez, à le mettre en place dans ses structures et ses instances, et en même temps, il a un discours, si vous voulez, de transversalité, d'intersectorialité, mais il ne se donne pas les moyens, à un moment donné, de le mettre en place dans des dispositifs qui seraient eux-mêmes transversaux. » Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. Donc il y a une sorte d'épuisement des acteurs, qui fait que si par exemple on est un acteur dans le travail social ou dans le médical et qu'on veut mettre en place parce qu'on a compris ce que c'est que les déterminants sociaux, les inégalités sociales de santé, et qu'on met en place ce qu'on appelle aujourd'hui une approche globale, hein, c'est ça dont il s'agit, hein, on va se retrouver, si vous voulez, en face d'injonctions contradictoires, si vous voulez, qui fait qu'à un moment donné on va s'épuiser. Hein, donc, du coup, si vous voulez, je ne sais pas si les libertaires le disent comme ça, mais en tout cas, la critique qui consiste à dire... la critique consisterait à dire qu'il y a une injonction paradoxale, si vous voulez, concernant, si vous voulez, les politiques de l'État, sur le discours qu'ils tiennent et sur la réalité, si vous voulez, des instances qui fonctionnent. Comme disait Véran, pour donner un exemple très précis hier, je suis ministre de la Santé et de la Solidarité, mais ce n'est pas moi qui m'occuperai de la réforme des retraites. Donc c'est une question politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on voit bien que dans la période actuelle, le ministre de la Santé, il redéfinit son périmètre d'intervention sur une problématique qui est une problématique de santé publique, exclusivement. Dernier point, mais sur l'égalité, il y a aussi un problème qui est réellement important et qui a à voir avec la manière dont les anarchistes ont essayé de le solutionner, mais on le verra après, juste, qui est celui de la participation des personnes. C'est-à-dire qu'on a effectivement aujourd'hui... je ne sais plus qui le premier en a parlé, mais c'est Jean-Luc Roland en santé mentale, qui était un psychiatre, avait fait un rapport dans les années 99-2000 qui s'appelait « L'usager au centre du soin », où il reprenait, oui c'était Kouchner, il reprenait ses ministères de Kouchner, il reprenait le concept de Kouchner qui parlait de démocratie sanitaire. Donc on voit arriver, si vous voulez, dans le champ de la santé, un concept qui est démocratie sanitaire. S'il y a démocratie sanitaire, il faut absolument qu'à un moment donné, on puisse entendre les gens qui bénéficient de soins pour savoir comment le soin a été distribué, est-ce qu'ils en sont contents, comment ils peuvent l'améliorer à partir d'expériences qu'ils ont traversées. Les premiers quand même qui ont chamboulé un peu, je dirais, le champ sanitaire, c'est-à-dire les mandarins, parce que c'était le mandarinat à l'époque, c'est quand même les gens qui ont été... qui ont traversé l'expérience du sida, hein, du VIH. Hein. Là, il y a eu effectivement une sorte de révolution dans le champ sanitaire où on a vu pour la première fois dans les ministères, autour de la table, des représentants de patients avec des professeurs de médecine. Et cette question, en fait, de la participation, pose une autre question concernant la question de l'égalité. C'est celle de la justice sociale qui, puisqu'on a la santé n'a pas de prix mais elle a un coût, qui va décider à un moment donné quel argent on va mettre pour quelle maladie, à quel moment. Et donc on a beaucoup de peine aujourd'hui à définir dans une démocratie libérale comme la nôtre cette question de la justice sociale, et on a de plus en plus d'acteurs. Et on le voit, si vous voulez, dans la multiplication des associations d'usagers, c'est-à-dire on peut être usager d'une petite maladie qu'on appelle une maladie rare, on peut être usager, si vous voulez... Avant, on avait des usagers comme la femme dans le centre de santé mentale que je connais bien, qui était l'Union nationale des familles et des amis de personnes malades. Aujourd'hui, on a des usagers qui sont des usagers détox. On a des usagers qui sont des usagers bipolaires. On a une spécialisation, hein, je veux dire, des usagers par rapport, si vous voulez, au fait que on se reconnaît plus dans cette maladie plutôt que dans un truc global qui s'appelle la maladie psychiatrique. Alors, pourquoi pas ? Mais ça pose la question, je dirais, à un moment donné, de comment, puisqu'ils vont tous frapper pour avoir des moyens, comment à un moment donné et par quelles instances on va redistribuer les fonds en fonction de ces nouveaux acteurs. Peut-être un autre exemple, si vous voulez, de la question de la répartition, c'est Trump. Trump qui est soigné, si vous voulez, avec des médicaments qu'on connaît encore pas, mais qui coûtent très cher. Bon, j'ai lu un article dans Le Monde, je crois, dans Mediapart, je ne sais plus, où ça aurait coûté 100 000 $. Hein, t'as vu ça aussi ? Il y a 200 000 morts aux États-Unis, à peu près 10 à 15 fois, ou peut-être 20 fois plus de gens qui sont positifs, qui ont Covid. Si on multiplie, si vous voulez, ne serait-ce que 100 000 dollars par 200 000, ça fait 20 milliards d'euros, de dollars. Donc, On voit bien que là, si vous voulez, et alors Trump dit, regardez, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. J'ai traversé les... Donc, je donne cet exemple parce que on voit bien que là, la question de l'inégalité d'accès, si vous voulez, aux soins est complètement structurelle à nos sociétés néolibérales, puisque même il a quelque part l'impudence d'expliquer que ce qu'il a traversé comme expérience concernant le Covid, tout le monde pourrait traverser alors que ça a coûté 100 000 $ et que si on voulait donner une équité hein, pour tout le monde, pour qu'il traverse cette expérience, il faudrait qu'il soit soigné de la même manière. Donc, ça c'est vraiment un autre exemple. Et puis, troisième et dernier exemple sur la question de l'égalité, c'est des inégalités sociales de santé. C'est que cette inégalité sociale de santé, elle a été mise en place, si vous voulez, c'est pour dire à quel point on est quelque part, pas dans le déni, mais en tout cas dans la lenteur à répondre à ces questions. La première grande recherche épidémiologiste a été faite par un mec qui s'appelle Marmotte, c'est un anglo-saxon, un anglais je crois. C'était une étude, si vous voulez, longitudinale de long terme sur les fonctionnaires britanniques, qui s'appelait Whitehall. Elle a montré, parce que c'est resté dans les annales de l'épidémiologie comme un standard, cette étude a montré que même dans une population de fonctionnaires britanniques, donc qui ont quand même un revenu de vie stable, des salaires réguliers, qui disposent d'une couverture sociale correcte, etc., ils ne souffrent pas de la pauvreté, eh bien le statut professionnel est corrélé à l'état de santé. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, il est corrélé par le fait que les gens vivent plus longtemps, parce que c'est très long, et d'autre part, parce qu'ils ont des pathologies spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, ils ont beaucoup moins de pathologies cardiaques, si vous voulez, que dans la population non fonctionnaire. Donc, voilà, il y a une sorte de complexification, si vous voulez, de la problématique de l'égalité de santé dans nos sociétés modernes, qui est due au fait qu'on a de plus en plus d'éléments. Et là, je veux dire, Whitehall, ils en ont fait une deuxième, là, je crois, dans les années 90, c'est les années 60-70. Donc ça fait, on est en 2020, ça fait 40 ans, grosso modo, que les épidémiologues savent que la question de la santé est corrélée. Alors là, je parle à la classe sociale, mais elle est corrélée aussi au genre, puisque les femmes et les hommes, c'est pas la même espérance de vie, elle est corrélée aussi à la race. Parce que si on prend le cas des Noirs américains aux États-Unis, question santé, ils ne sont pas à la hauteur. Enfin, à la hauteur, ce n'est pas une question de hauteur. Mais ils sont bien moins soignés, ils sont beaucoup plus malades et ils vivent moins longtemps que les Blancs. Donc, ça, tout le monde le sait. Mais, et c'est là que la critique libertaire est intéressante, les États sont relativement impuissants à inverser, si vous voulez, la tendance. Voilà. C'est quand même un peu frappant. Voilà. Et ces études confirment ce que l'on sait donc depuis. Je pense que ces études confirment ce que la médecine sociale du 19e siècle disait depuis 150 ans quand elle parlait d'hygiène sociale. Elle disait exactement la même chose en fait. Voilà. C'est-à-dire que les pauvres sont malades et. Voilà. Plus malade que le riche. C'est tellement évident que... Voilà. Ça s'est complexifié, classe, genre, race, donc c'est la notion d'intersectionnalité. Après, donc, santé et anarchie. J'en ai pas pour très longtemps. Alors, la culture anarchiste en matière de santé, elle pose la santé comme une question importante, ce qui n'est pas le cas de toutes les théories politiques. Elle pense que la santé est aussi importante que la question du travail ou que la question de la famille, etc. Et que cette question sociale, c'est une question sociale pour les anarchistes, doit appartenir au peuple. Et doit se fonder donc sur les besoins humains, c'est-à-dire des gens, et notamment, si vous voulez, parce qu'elle s'est exemplifiée, elle s'est pratiquée quand même plutôt en Espagne, si vous voulez, pendant la guerre d'Espagne, et notamment, si vous voulez, dans la Confédération nationale du travail, qui était plutôt, si vous voulez, dans la région de Catalogne, où il y avait beaucoup d'anarcho-syndicalistes, elle s'est penchée sur sur les conditions de travail des, sur les conditions des travailleurs. Hein, donc, c'est-à-dire, les travailleurs doivent effectivement, à un moment donné, participer à l'élaboration des systèmes de santé. Et c'est pas une question isolée, c'est pas une question latérale. Et d'autant plus que les anarchistes, au nom du fait que, ce que je disais tout à l'heure, hein, ils pensent que la question de l'individu est importante et que finalement, ce qui est le plus important dans une vie, c'est l'épanouissement de l'individu, hein, c'est son harmonie. Et donc, ils pensent que la santé, c'est pas simplement une technique, c'est pas simplement une science, c'est pas simplement une clinique, mais c'est un art. Quelque part, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais moi, ça me fait penser en tout cas à cette manière qu'ont les orientaux un peu de prendre la question de la santé comme un art, comme quelque chose qui a à voir, si vous voulez, avec la culture d'une population. Alors, à partir de là, ils ont pensé ces questions-là, et notamment, il y a un certain nombre de médecins qui sont des médecins anarchistes qui ont écrit quelques bouquins sur ces questions dans les années 30. Alors il y en a un dont je me suis inspiré, qui s'appelle, je ne sais plus comment, il s'appelle comment celui-là, bon, peu importe. Il s'appelle Félix Marty Ibanez, excusez-moi pour l'accent. Il est anarchiste, il est médecin, et il a contribué à un magazine, si vous voulez, qui est une revue dans les années 30, dont les principaux thèmes sont le nudisme, il faisait la promotion du nudisme, il faisait la promotion de la médecine intégrale, l'amour libre, l'éducation sexuelle, l'hygiène, l'alimentation naturelle, la pédagogie rationnelle, l'art, etc. etc. Et en fait, je le dis parce qu'il a eu une influence très importante en fait sur la classe ouvrière espagnole, en contribuant donc à faire évoluer ses mentalités en fait, hein, parce que c'était pas quelque chose qui faisait partie automatiquement, si vous voulez, de l'habitus de la population industrieuse. Et il est devenu pendant le Front populaire sous-secrétaire d'État à la santé. Donc c'est pas n'importe qui non plus, hein, et la sécurité sociale. Et il a représenté l'Espagne à différents congrès mondiaux, si vous voulez. Il a fini sa vie, je crois, à New York, parce qu'après après le retour de Franco, il est obligé de s'exiler. Mais bon, pour les besoins de J'ai puisé un peu dans son bouquin, et j'en ai sorti, alors ça reste vraiment, c'est pas un travail universitaire, hein, ça, j'ai fait ça en quelques jours, ça resterait à affiner, mais j'en ai sorti 5 principes qui peuvent nous intéresser. Le premier principe défendu par Ibanez, c'est il faut convertir les soins médicaux, c'est-à-dire curatifs, hein, dans son esprit, dans une perspective préventive. Il appelle ça la socialisation. Donc la socialisation, ça veut dire que la question de la santé doit être prise et contrôlée dans tous ces aspects, si vous voulez, par ceux qui sont affectés par un certain nombre de pathologies ou qui désirent, par exemple, rester en santé et qui savent ou qui ont des propositions, si vous voulez, à faire pour comment on fait pour rester en santé. Il appelle ça l'autogestion. Ça renvoie à ce que je disais sur la CFDT des années 70 tout à l'heure. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est qu'il pense. Et il propose cette perspective que la maladie, quelle qu'elle soit, quelle que soit la pathologie, a une cause sociale ou une cause morale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il faut prendre en charge dans la maladie cette cause sociale et cette cause morale. C'est en dernière instance, même s'il y a des virus, même s'il y a des organes qui sont abîmés, même etc. tout ça, ce qui est du ressort des médecins. En dernière analyse, les maladies pour lui représentent une réaction individuelle aux problèmes de la vie, aux problèmes vitaux, aux problèmes de la vie sociale. Et donc le concept de santé est vraiment extensif et devient de fait une problématique sociale. C'est pour ça que les anarchistes s'y intéressent. Et c'est pas simplement, si vous voulez, un rassemblement d'une hétérogénéité de maladies qui ferait qu'il y aura un champ qui s'appellerait la santé. C'est pas le rassemblement et la le fait de mettre les maladies les unes à côté des autres et de les soigner en tant que telles qui fait qu'on est dans une situation de santé. Dans la santé, c'est pas une mosaïque, justement. Ça, c'est son deuxième point. Et donc, ce point est adossé à une critique, on est en 37, hein, 1937, à une critique qui est celle que la société moderne a transformé les médecins en ce qu'il appelle des robots. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il voit que l'aspect localisé de la maladie, plutôt que l'environnement, le contexte, la cause sociale. Donc il y a une critique, si vous voulez, de la manière dont la science a transformé, si vous voulez, les médecins en robots, en automates. Ça, c'est le deuxième point. Après, donc il dit, il décline finalement ses principes. Troisième principe, il faut prendre et regarder la personne pour faire un diagnostic, hein, parce qu'après, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais il propose toute une investigation pour mettre en place des diagnostics. Qu'il appelle investigation, d'ailleurs, il n'appelle pas diagnostic. Il faut une investigation. Il dit pas diagnostic, lui, il dit investigation. Il faut qu'il y ait une investigation, en fait, qui porte autant sur la personne, dans son milieu, c'est-à-dire si elle travaille, faut porter l'investigation dans son milieu de travail, si elle est mariée, dans son milieu familial, que dans son environnement. C'est-à-dire il faut une investigation, si vous voulez, à double entrée. Une investigation de la personne et dans son environnement. Il appelle ça la thérapie sociale. Dans d'autres textes, j'ai vu qu'il appelait ça la sociothérapie. Oui, donc c'est quand même pas intéressant. Et donc il élargit, si vous voulez, sa thérapie sociale, pas simplement à la personne malade, mais à ce qu'on pourrait appeler, après Foucault, les anormaux, les pauvres. Il ne le dit pas, mais on pourrait presque dire les migrants, enfin tous ceux qui sont dans des situations... où le contexte est très 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 prenant. Alors je vous donne un exemple parce que en même temps c'est extraordinaire l'anarchiste, ils sont naïfs à cette époque quelque part, ils sont idéalistes. Donc il donne un exemple, il dit voilà, une femme qui vient le voir avec des tendances névrotiques et mélancoliques, tiens comme par hasard, c'est pas un mec, dans la thérapie sociale, remarquez à Martin Ibanez, son style de vie serait étudié et les résultats suivants auraient été trouvés. C'est une femme mariée qui est enceinte, abandonnée par un mari alcoolique, en conflit sexuel avec lui, qui doit s'occuper seule des enfants et a été renvoyée de son travail. La thérapie sociale conseillerait un traitement médical et d'abord psychologique, rechercherait le mari, s'efforcerait de désintoxiquer de l'alcool, de résoudre le problème sexuel des deux partenaires et, si possible, de les remettre ensemble. Ses dettes financières seraient payées, les enfants seraient pris en charge et elle serait réinsérée dans son emploi. Un médecin tout seul ne peut faire toutes ces choses. C'est quand même extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Mmh. Hein ? On a envie d'y croire, mais bon. Hein. Donc ça, c'est son quatrième point. Donc voyez bien à quel point la question de l'extension de la santé, finalement, repose la question de l'organisation sociale. Quoi. Enfin, ouais. Et ça, c'est son troisième point. Et le quatrième point, c'est... C'est la question de l'investigation, donc il parle d'investigation au sens le plus large. Et il dit que les investigateurs, ça doit être d'abord... Ouais, mais ça va juste aller. Les investigateurs, ça va être d'abord le patient, mais pas que le patient. Et donc il cite le médecin, j'étais content quand j'ai vu ça, le pédagogue, l'économiste, le sociologue au sein de l'organisation collective de ce qu'il appelle la sociothérapie. Donc en fait, il a... On s'en fout hein, de qui il cite, mais ce qui est intéressant dans le principe, c'est le principe de l'interdisciplinarité, quoi, de la multidisciplinarité. Et puis le cinquième principe, c'est ce qu'il appelle la revitalisation des énergies sapées du patient. Bon, comme on a plus beaucoup de temps, je vais pas en parler, mais il voit trois types d'énergie, si vous voulez, qu'il faut revitaliser. Ce qu'il appelle les énergies sociales, C'est l'énergie, c'est accroître les aptitudes, qu'on pourrait appeler aujourd'hui les capacités des personnes en fonction, si vous voulez, de leur environnement, par exemple au travail, mais pas que. Les énergies spirituelles, c'est le terme qu'il emploie, facilitant l'accès à la vie culturelle, à la relation de camaraderie fraternelle avec les autres, et les énergies psychiques. Donc c'est la question de est-ce qu'on s'aime soi-même, est-ce que c'est pas simplement la question de l'intrapsychique, de l'inconscient, c'est l'énergie psychique, c'est l'estime de soi quelque part. Donc c'est les cinq principes qui défend. Et puis j'ai fait une petite conclusion, donc j'en ai juste pour deux minutes. Il finit par dire, il faut pas parler de soins curatifs, il faut parler de soins de santé. C'est son concept rassembleur, si vous voulez. Ceci dit, il subsiste des problèmes, parce qu'en fait, c'était un peu... Est-ce qu'il faut que les homosexuels... Est-ce que les homosexuels ont besoin d'aide dans son raisonnement, là. Est-ce qu'il faut absolument que le couple qui ne s'entend pas sexuellement, il faut le réparer ou il faut passer à quelqu'un d'autre? Enfin, il y a quand même un certain nombre de problèmes où il y a de la normativité aussi dans la thérapie qu'il propose. Et puis ce qui est posé, et il essaie de le... Et c'est intéressant de le dépasser par la question d'interdisciplinarité, c'est la question de l'expert. C'est-à-dire quel est l'expert qui, à un moment donné, va dire ce qu'il en est de la maladie et de la santé. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout résolu, et notamment quels sont les abus de pouvoir que tous les experts, quels qu'ils soient, peuvent à un moment donné, si vous les mettre en place. Ce qui quand même renvoie à une question très importante pour les anarchistes, qui est celle de l'anti-hiérarchie. S'il y a des abus de pouvoir, ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation qui se remet en place, par le fait qu'il y a des experts qui ont le savoir et d'autres qui ne l'ont pas. Hein, c'est ça qu'il y a derrière. Alors, moi, pour conclure, mais là, c'est ma conclusion à moi, mais elle vaut ce qu'elle vaut, j'ai envie de dire que l'anarchisme, en tant que théorie révolutionnaire, a pris un coup dans l'aile, c'est-à-dire qu'elle est, elle est un peu poussiéreuse, historique, historiquement, elle a fini dans la violence. Mais la philosophie libertaire, ou l'anarchie et pas l'anarchisme, en tant que mouvement culturel, spéculatif, porte finalement des valeurs que nos sociétés social-démocrates devraient parfois revisiter. Voilà, j'ai envie de dire ça. Ça peut être intéressant, un peu de liberté, j'irais, dans nos sociétés un peu engrossées. Et puis, pour finir, une citation de Bakounine, tant qu'à faire, allons-y. Plus le pouvoir de l'État et de la bureaucratie augmente, plus l'affirmation de l'anarchie est nécessaire, seule et dernière défense de l'individu, c'est-à-dire de l'homme. Il est bien qu'on retombe sur la question de l'individu, si vous voulez, qui est au centre du théâtre de la condition humaine. Mmh.